Le titre de cette prédication, c'est « L'Église, une prémisse de la moisson ». Alors, nous savons tous que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, puisque Jésus, quand il parlait des Écritures, il citait l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament raconte la venue du Messie, alors que l'Ancien Testament, par les prophètes, annonce la venue du Messie qui va sauver les hommes du péché. Mais le Nouveau Testament raconte, c'est l'Évangile, raconte cette venue qui a amené Jésus et Jésus a amené le royaume de Dieu sur la terre. Mais il est reparti en haut, et il va régner, il règne en esprit en attendant de régner sur le monde physiquement. Il a établi les clés, l'Église, l'Ecclésia de Jésus-Christ. C'est une corporation de petits Christ, de chrétiens, qui sont ambassadeurs dans le monde. C'est-à-dire que l'Église est une ambassade qui représente le royaume de Dieu, qui n'est pas de ce monde, car le prince de ce monde aujourd'hui, c'est le diable. Ecclésia veut dire hors d'eux. Donc, comme l'Ecclésia d'Athènes, que Jésus a pris comme exemple, se tenait en dehors de la ville, c'était des citoyens, c'était des hommes libres qui décidaient de la politique de leur ville. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ est composée d'hommes libres en Christ qui décident de leur souveraineté. Je rappelle que la Pentecôte s'appelle aussi la fête des semaines. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a 7 fois 7 semaines entre Pâques et Pentecôte. Mais on fête aussi les prémices de la moisson. Et on agite ce jour-là des gerbes de blé, qui est la base alimentaire des hommes, mais aussi le don de la Torah, de la parole qui a été donnée à Moïse en Sinaï. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est de savoir qu'il y avait 120 disciples dans la chambre haute, c'est-à-dire 12 fois 10. 12, c'est les tribus et les apôtres, et 10, c'est l'accomplissement, l'aboutissement, c'est-à-dire le symbole que l'Évangile est ouvert à toutes les nations. Ils sont réunis dans cette chambre haute et reçoivent le Saint-Esprit qui les pousse en dehors de leur mur pour parler des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour exercer de la puissance, mais pour glorifier Dieu seul. Alors, on va lire un passage des Écritures du chapitre 2. Ainsi, David a entretenu par avance la résurrection du Christ. Et alors là, il y a une vignette qui me gêne, mais ce n'était pas prévu. Voilà. La résurrection du Christ. Et en parlant, en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité des morts, ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répondit, « Changez, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la parole est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays où vous êtes et ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre et à prier ensemble. Voyons là le démarrage de la première Église. Il y a deux réponses qui ont été données au discours de Pierre, qui a pris la parole au nom de tous les disciples. Et ces deux réponses, c'est « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ » et recevez le don du Saint-Esprit. Et la deuxième, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain, la Sainte Cène. J'espère que bientôt, on pourra la reprendre ensemble. Et les prières. Pierre a été témoin de la résurrection du Christ. Et il a enseigné la première foule qui l'entendait. Nous sommes là en face de trois fêtes, et je voudrais donc parler de l'Église comme prémisse de la moisson. La Pentecôte fait partie de trois fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Et ces trois fêtes sont la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles ou la Soukotte, fête des huttes, etc. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc ce sont les trois fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire que là, les Israélites devaient aller à Jérusalem pour fêter ces trois fêtes sur place, et c'est grâce à ça qu'à la Pentecôte, eh bien, il y avait tous ces Juifs qui étaient présents et qui représentaient tous les endroits où se trouvaient les Juifs de l'époque. La première fête, donc, c'est le Christ est venu comme un bébé. Il a vécu 30 ans et ensuite après il a donné sa vie à la croix, et aujourd'hui à la résurrection d'entre les morts il règne dans le ciel, et pendant ce règne, eh bien il va revenir bientôt pour établir son royaume sur la terre. Et pendant ce temps-là, l'Église est une ambassade. La Pâque, donc ces trois fêtes qui sont des fêtes aussi agricoles, qui marquent l'année agricole. La première fête, c'est la Pâque, où ce sont les prémices de la moisson de l'orge. Hein, et on verra tout à l'heure pourquoi ce sont ces prémices qui sont aussi fêtées. Ensuite, cette semaine de 7 jours plus tard, ce sont les prémices de la moisson du blé qui sont célébrés. Et enfin, la grande moisson, qui est la fête des tabernacles, qui est la récolte des fruits de toute l'année, de la moisson, la deuxième moisson des blés, etc., de l'orge, mais aussi de tous les fruits qui sont produits par la terre. Alors, il y a une signification théologique, on verra tout à l'heure, que les prémices de l'orge, ce sont la résurrection de Christ comme nouvel Adam, pour la création d'une nouvelle humanité. La Pentecôte, ce sont les prémices de la résurrection spirituelle des membres baptisés, engagés dans l'Église. C'est un reste qui règnera avec Christ dans le millénium. Et dans le millénium, c'est la fête des tabernacles qui est la fête des fruits, donc la résurrection corporelle des chrétiens morts en Christ et salut de toutes les personnes sur la terre. Voilà donc un panorama du plan de rédemption au travers de ces trois fêtes prophétiques qui nécessitaient un pèlerinage à Jérusalem. Ces trois convocations saintes que vous célébrerez sont édictées dans le Lévitique 23:2, clairement, Pâques, Pentecôte, Soukotte, qui devaient être célébrées par le peuple d'Israël. Et la signification des récoltes spirituelles est révélée donc dans le Nouveau Testament en Christ, que nous allons maintenant voir ensemble un peu plus en détail. Voilà, je reprends la main pour que vous puissiez me voir plus facilement. Alors, ce jour-là, à la Pentecôte, je parle, l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120 premiers disciples de Jésus, et ils ont commencé à parler à haute voix dans les langues du monde entier. Cela a créé une telle agitation que les milliers de personnes qui se trouvaient à Jérusalem à l'époque sont sorties pour voir ce qui se passait. Et devant la foule, Pierre prononça le premier message de l'Évangile et 3000 personnes furent ajoutées à leur nombre ce jour-là. Le jour de la Pentecôte, qui était 50 jours après la résurrection de Jésus, c'était pendant ces 50 jours que les disciples de Jésus ont été convaincus que le Christ était ressuscité des morts, puisqu'il s'est manifesté, même dans une pièce close, il traversait les murs et se manifestait. Et le dimanche de Pentecôte, lorsqu'ils ont parlé publiquement, eh bien, l'histoire du monde entier a été changée. On croit ou non à la résurrection, notre vie est affectée par les événements historiques du dimanche de Pentecôte, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, la compréhension du jour de la Pentecôte, bien que correcte, n'est pas complète. Beaucoup de gens veulent une répétition de cette expérience de la venue du Saint-Esprit et désirent une expérience similaire de puissance. Puisque les premiers disciples de Jésus ont vécu cette expérience pentecôtiste en attendant le don de l'Esprit, les croyants d'aujourd'hui espèrent qu'en attendant, ils recevront l'Esprit de la même manière. Et ils organisent des réunions d'attente de l'Esprit. J'ai connu cela puisque moi j'ai fréquenté une église de Pentecôte dès ma conversion et on faisait des réunions d'attente du Saint-Esprit. Par conséquent, beaucoup de gens implorent et attendent que Dieu leur apporte une autre Pentecôte. Mais penser de cette façon laisse sous-entendre que c'est l'attente et la prière des disciples qui ont poussé l'Esprit de Dieu à venir à cette époque, au moment de la Pentecôte. Cependant, penser de cette façon manque de pertinence réelle, puisqu'en effet, la fête de Pentecôte, enregistrée dans le chapitre 2 des Actes, n'est pas la première Pentecôte, il y a eu d'autres Pentecôtes. La Pentecôte était en fait une fête annuelle dans l'Ancien Testament, donc 1500 ans avant Jésus-Christ, au temps de Moïse, qu'il avait établi parmi plusieurs fêtes à être célébrées tout au long de l'année. La Pâque était la première fête de l'année juive qui célébrait, bien sûr, la sortie de l'esclavage. Souvenons-nous, Jésus a été crucifié lors de la fête de Pâques et sa mort s'est déroulée au moment exact des sacrifices des agneaux de la Pâque en Égypte comme symbole du sacrifice de Christ qui allait venir. Mais la deuxième fête, au moment de la Pâque, était la fête des prémices de l'orge. Alors l'orge, un épi qui pousse, mais qui représente aussi différentes sortes de graines, de graminées. Ça peut être de l'avoine, etc. Et c'est destiné pour les animaux. En général, on ne fait pas de pain, sauf les pains sans levain, souvent c'était des galettes d'orge. Donc, c'est le festival des récoltes de céréales. Et la loi de Moïse stipulait qu'elle devait être célébrée d'un jour après la Pâque, donc le dimanche, puisque la Pâque, c'était le sabbat. Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit le dimanche. Et désormais, sa résurrection a exactement eu lieu lors de la fête des prémices de l'orge. Depuis que sa résurrection a eu lieu le jour des prémices, Dieu nous a fait la promesse que notre résurrection suivra plus tard. Bien sûr, pour tous ceux qui lui font confiance. La résurrection de Jésus est littéralement un prémisse qui en annonce d'autres, c'est-à-dire deux autres résurrections. La Pentecôte et Soukhot, la fête des tabernacles. Alors revenons à la fête des prémices. Peu de temps après avoir donné les 10 commandements, Dieu livra une autre recommandation à Israël, dans Exode, chapitre 23, versets 14 à 16. Je lis, « 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Vous savez qu'en Terre Sainte, lors de cette fête de la moisson, la Pentecôte, qui est appelée la fête des prémices ou des semailles, les Israélites devaient offrir à la fin du printemps les prémices de leur moisson de blé. Et quelques mois plus tard, donc 5 mois plus tard, ils célébraient une autre fête qui s'appelle la fête de la récolte ou la fête des tabernacles, la Soukhot. Elle avait lieu à la fin de l'année agricole, donc ce cycle agricole annuel qui se situe à la fin de l'été en Terre Sainte, lorsque les gens se rassemblaient à l'occasion des moissons. L'observation de ces fêtes est commandée par Dieu. Elles doivent encore être célébrées par le peuple de Dieu aujourd'hui, car il veut que nous apprenions certaines leçons. Nous devrions aussi comprendre que lorsqu'une personne observe les fêtes de Dieu à l'heure actuelle, elle ne commémore pas seulement la bénédiction divine envers les récoltes agricoles de la Terre Sainte, elle célèbre et apprend quelque chose de beaucoup plus important spirituellement, c'est-à-dire Dieu et son plan, son dessein pour le salut de l'humanité. La parole de Dieu évoque deux types de récoltes ou de moissons. La première, comme on vient de le voir, c'est la récolte agricole, et l'autre, c'est la récolte spirituelle, bien plus importante, bien sûr. Notez les paroles de Jésus dans Luc chapitre 10, versets 1 à 2. « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus comparait la moisson spirituelle à une récolte de céréales. Dans Jean, chapitre 4, verset 35, il dit à ses disciples, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. » En fait, les moissons, à l'époque des fêtes bibliques de Dieu, ont été conçues pour nous enseigner qu'il y a une moisson spirituelle pour laquelle Jésus est venu sur la terre afin de semer des graines dont il a, lui et ses disciples, commencé à récolter les fruits. De même qu'au Moyen-Orient, il y avait une récolte précoce et une récolte tardive, il y a également 2 phases dans la moisson spirituelle. L'apôtre Jacques écrit que le peuple de Dieu représente les prémices de ses créatures. C'est dans Jacques 1, 18, je vais vous le lire. Jacques 1, 18. « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. » Les prémices. Les prémices sont les premiers fruits d'une récolte. Cela implique qu'il y a d'autres fruits qui seront récoltés plus tard. Vous êtes-vous déjà demandé, en tout cas moi je me suis posé cette question, pourquoi la religion chrétienne n'a pas résolu tous les problèmes du monde? Pourquoi ne l'a-t-elle pas emportée sur d'autres grandes religions, sur d'autres grandes philosophies de ce monde, ou d'autres grandes sagesses? Eh bien, nous pourrions nous attendre à ce que l'œuvre de Jésus-Christ venant de Dieu nous procure une époque où un grand mouvement de christianisme l'emporterait et ouvrirait la voie à la paix que tout le monde attend. Après tout, le christianisme enseigne que le royaume de Dieu va s'agrandir à partir de ce petit début avec les 120 et que la puissance de Dieu se manifesterait au monde par les disciples qui vont suivre et que nous sommes. Alors pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Il y a une réponse très simple pour expliquer le concept des prémices, puisque là, c'est dans le concept des prémices. Pourquoi l'Église est prémice? Eh bien, Dieu n'a jamais eu l'intention de convertir tout le monde par la force, puisque Jésus veut nous arracher au siècle présent, comme le dira l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 1er, verset 4. N'avez-vous jamais considéré que si c'est ce que Dieu avait prévu, il aurait certainement réussi à accomplir. Si Dieu Tout-Puissant avait eu l'intention de convertir le monde entier à l'heure actuelle, il aurait certainement réussi à le faire. Mais ceci n'a pas eu lieu. Donc que se passe-t-il ? Eh bien, le fait que Dieu a l'intention de convertir le monde entier au sens large est véritablement une réalité, mais dans une date dans le futur. Cette époque annoncée par les prophètes se situe dans le retour de Jésus-Christ sur la terre pour établir son royaume physiquement sur la terre. Je vais lire un passage de Ésaïe, chapitre 2, versets 2 et 3. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Voyez que cette parole ne représente pas le monde d'aujourd'hui. Notre monde est un endroit où les nations ignorent Dieu, le Dieu créateur révélé dans la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre monde est un monde qui ne pense à résoudre les problèmes que par la guerre, ou la domination de l'homme sur l'homme, d'une race sur l'autre, etc. Et ceci est une malédiction de la chute, ça ne peut pas amener une bénédiction. Remarquez que Ésaïe prophétise au sujet du monde sur lequel Jésus-Christ règnera. Je lis dans Ésaïe chapitre 2, verset 4, « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » Encore une fois, ceci n'est pas la description du monde actuel. Il s'agit de celle d'un monde sur lequel règne Jésus-Christ, après qu'il ait été établi et administré son royaume avec l'aide de ses saints, que nous sommes. Voici un monde futur où toutes les nations chercheront le vrai Dieu. Cette vision pour l'humanité est clairement encore à venir. Alors cela nous ramène aux prémices. Le concept global des prémices est que Dieu n'est pas en train de convertir le monde maintenant. Nous sommes à une époque où celui-ci est toujours dirigé par Satan, le diable. Paul appelle même le diable le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4 ou Apocalypse 12, 9. Celui qui a spirituellement aveuglé les esprits de la plupart de l'humanité à l'heure actuelle, soyons clairs, Jésus-Christ ne va pas changer ce monde dans le siècle que nous connaissons actuellement, le présent siècle mauvais. Il n'a pas établi son église dans le but que les hommes se tournent vers lui automatiquement, sans rien faire. En fait, il y a une période de temps entre son premier avènement, lorsqu'il a fondé son église, et son futur retour sur la terre, lorsqu'il reviendra. Il ressuscitera ses saints qui connaîtront l'immortalité. Il est écrit dans Apocalypse qu'il reviendra à la septième trompette, lorsque tout est accompli, comme il est indiqué dans Apocalypse 11-15. Le septième ange sonnera de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles », c'est-à-dire sans fin. Ce n'est que lorsque Jésus reviendra dans le monde que le monde se tournera vers lui, certainement après avoir enduré des souffrances épouvantables. Il semble qu'il faudra des événements terribles et traumatisants pour que les gens arrivent à un point tel qu'ils acceptent volontairement de se tourner vers leur Créateur, et cela à grande échelle au niveau de toutes les nations. En attendant, Dieu amène un petit nombre d'individus à se tourner vers lui, un reste seulement, comme dit la parole. Aujourd'hui même, à l'époque de l'Église et dans le siècle présent mauvais. C'est au cours de la période qui se situe entre son premier et ce second avènement qu'il a établi son Église, cette assemblée d'hommes libres qui participent à leur propre citoyenneté, qui est séparée du monde. Et cette Église est composée des prémices. Jésus a dit Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, un caillou, et que sur ce roc, Christ, donc le caillou est symbole du rocher, mais n'est pas le rocher, donc ce rocher qui est Christ, fils de l'homme et fils de Dieu, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Alors, puisque ce monde n'est pas celui de Dieu, son Église subit des attaques depuis sa création, qu'elles soient spirituelles ou physiques, y compris par la persécution des gouvernements, la persécution religieuse provenant de l'extérieur, ainsi que des loups et des faux enseignements infiltrés en son propre sein. Mais parce que Jésus en est le chef, elle l'emportera néanmoins. Les membres de son Église, hors du monde et dans le monde, sont aidés par le Christ à être vainqueurs sur le monde, comme lui-même a vaincu le monde. Il les aide à tenir fidèlement à ses enseignements en face de la pression exercée par l'extérieur. Son Église a apporté au monde le même évangile que lui-même, Jésus, a enseigné. C'est l'évangile du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Toutefois, bien que son Église existe encore aujourd'hui, elle n'était jamais destinée à devenir une force religieuse ni une force politique au cours du siècle présent. Ceux que Dieu a appelés à son grand dessein grâce aux enseignements du Christ devront se préparer spirituellement à sa venue. Parce que le but ultime de Dieu pour les membres de son Église, qui sont également appelés des prémices, et que ces derniers puissent vivre dans le royaume de Dieu, qui aujourd'hui est en haut, c'est-à-dire dans le ciel, qui est d'une nature sainte et pas polluée comme la nôtre en bas. Son Église existe maintenant, et son objectif principal est de proclamer l'évangile du royaume et de préparer ceux que Dieu a placés en son sein en vue d'un rôle qu'ils auront dans ce prochain royaume, lorsqu'il sera pleinement manifesté sur la terre, c'est-à-dire pendant le millénium. Ce sont des administrateurs. Nous serons des administrateurs sur terre sous la direction du Christ. À nouveau, ceux qui se préparent au grand dessein de régner avec Jésus-Christ représentent les prémices. Ce sont les premiers de la grande moisson de Dieu parmi ceux qui sont amenés au salut. Remarquez que la parabole de Jésus sur les talents ou les mines, suivant l'évangile qu'on prend, dit au sujet de ceux à qui les biens de leur maître ont été confiés et de la responsabilité qu'ils ont d'en faire bon usage, de générer ou d'accroître un profit. Cela s'applique à ceux qui sont appelés maintenant, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les bénédictions du royaume de Dieu, et particulièrement celles de sa parole et de son esprit qui se déploie désormais dans leur vie. Nous avons une responsabilité de faire générer des profits, c'est-à-dire que nous devons amener des âmes à la connaissance de l'Évangile en parlant de cet Évangile autour de nous. Après avoir enseigné, Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants, c'est-à-dire aux simples, aux ceux qui sont humbles. » Réfléchissons à la déclaration que Jésus a faite et comparons-le à Luc chapitre 8, verset 10. Dieu a clairement caché ses vérités à certaines personnes. Cette précieuse vérité n'est pas donnée à tout le monde au cours de cet âge. La grande majorité des gens, même ceux qui prétendent être chrétiens, ne comprennent pas le grand dessein, le grand plan de Dieu, à savoir que Dieu veut habiter au milieu de ses créatures qu'il a faites pour sa gloire. Et habiter, ça veut dire tabernacler, d'où la fête des tabernacles. La plupart des chrétiens, sincèrement pratiquement, ne comprennent pas qu'ils n'iront pas au ciel sous forme d'âme immatérielle sans corps à leur mort. La réalité que les morts sont inconscients et attendent une résurrection. c'est écrit dans Ecclésiaste 9.5, Apocalypse 9.10 ou Daniel 12.2. Mais la réalité, c'est que ces saints qui sont morts, eh bien, ils vivront sur la terre avec un nouveau corps sous l'autorité du règne de Christ. Oui, Jésus reviendra une seconde fois et ressuscitera ceux qui dorment en Jésus. C'est la déclaration de Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Les vrais chrétiens qui meurent pendant cette époque assisteront le Christ dans son règne terrestre de 1000 ans. Alors, ça ne veut pas dire que c'est 1000 ans, voilà, c'est un chiffre qui montre que c'est un siècle qui est assez long et qui va se manifester sur la terre. Et grâce à ce règne juste, la paix sera établie et tous les gens viendront alors à connaître Dieu. Et ils viendront à Sion, à Jérusalem, pour les fêtes de pèlerinage, de Pâques, Pentecôte et Soukhot. Et ces fêtes seront fêtées dans l'éternité. La Pentecôte, ou fête des prémices, nous renvoie à notre privilège d'être des prémices, des témoins de ce royaume qui a été annoncé par Jésus, le déjà pas encore, en attendant le retour de Christ, avec qui nous gouvernerons, nous administrons, nous régnerons avec lui sur la terre, à la gloire de Dieu le Père. Réjouissons-nous, frères et sœurs, de ce privilège. Mesurons la grâce qui est la nôtre de servir Christ pour l'éternité et de jouir de la présence de Dieu. Détournons-nous des vaines idoles de ce monde, en particulier de cette fameuse mère nature créatrice qui est idolâtrée sur la face du monde. Et adorons le seul Dieu, créateur et père de tous, qui a placé sa parole dans nos cœurs par l'action de son Saint-Esprit. Apportons-lui des offrandes de reconnaissance de nos cœurs et restons fidèles à sa parole, qui ne passera pas. J'aimerais prier. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as fait de nous des prémices, Seigneur, de ceux qui annonçons des choses, Seigneur, que le monde ne connaît pas. Parce que, Seigneur, cette sagesse ne vient pas d'en bas, mais vient d'en haut. Seigneur, tu nous as révélé et nous te remercions pour ces trois fêtes, Pâques, Pentecôte et Soukhot ou Tabernacle. Eh bien, Seigneur, tu veux tabernacler avec nous. Mais en attendant, Seigneur, eh bien, nous souffrons, c'est vrai, parce que le monde ne te reconnaît pas. Mais Seigneur, nous te reconnaissons et notre espérance est que, Seigneur, lorsque nous aurons ce corps de résurrection qui va nous rétablir en plénitude dans cette nouvelle humanité, qui a commencé avec toi à la résurrection à Pâques, eh bien, Seigneur, nous pourrons régner avec toi, nous pourrons administrer ce monde, Seigneur, dans la paix, parce que toi, tu es quelqu'un qui est dans la paix. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour cette révélation de la Pentecôte, où, Seigneur, tu nous as montré que nous sommes des prémices de la moisson, et nous voulons être à la hauteur de cet appel. Et Seigneur, ne pas mépriser cet appel que tu nous as donné. Mais Seigneur, vraiment de te servir de tout notre cœur, nous te prions au nom de Jésus.